Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Psychoserie. Psychoserie, c'est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie, la psychologie et la société tous les dimanches à 11h30 à l'antenne de Chiz 94.3. Tous les épisodes sont également disponibles en rediffusion en balado via notre page Facebook nommée Psychoserie. Psychoserie, c'est également une émission de divertissement et de vulgarisation scientifique. C'est important de mentionner que notre émission ne remplace pas une consultation auprès d'un professionnel de la santé, que nous ne faisons pas de recommandations personnelles aux auditeurs et qu'aucun lien médecin-patient n'est formé lors de notre émission. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter auprès d'un médecin ou au centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un maintenant, je vous réfère au centre de prévention du suicide au numéro 1-866-APPEL 1-866-277-3553. Pour la prochaine demi-heure, vous êtes accompagné de moi-même, Hugo Lévesque, médecin résident en troisième année de spécialisation en psychiatrie à l'Université Laval. Et aujourd'hui, on a une émission très spéciale pour vous, là, alors qu'on a le plaisir d'accueillir une invitée de marque, docteur Sophie Maffolini. Bonjour, docteur Maffolini.
Salut Hugo, enchanté.
Et vous êtes une femme très occupée, puis je vous remercie grandement de nous offrir à moi et à nos auditeurs le temps pour nous parler de votre parcours, de votre vision, puis votre pratique, que je trouve franchement inspirante et rafraîchissante. Cette approche-là pourrait vraiment être utile à notre population qui souffre là, de la pandémie, du stress qui est subséquent aux mesures actuelles, là, comme la distanciation sociale, puis l'incertitude par rapport au futur, mais une population qui, je pense, était déjà affectée par le stress engendré par notre société, même avant la pandémie.
Oui, ça a un grand impact quand toutes les mesures actuelles ont un grand impact sur la santé psychologique des gens.
Puis, docteur Maffolini, vous êtes médecin de famille, vous êtes l'auteur des best-sellers Méditer sans complexe, L'anxiété sans complexe, puis on va y revenir sous peu à vos deux livres, là, mais vous êtes également qualifiée de marraine de la Mindful Mafia. On sait que la stratégie des mafias repose sur une stratégie d'infiltration de la société et des institutions. Est-ce que ça veut dire, ça, que vous infiltrez l'esprit des gens à l'ère de la pleine conscience?
Exactement, t'as tout compris. C'est exactement ça l'intention. En fait, c'est ma maman brésilienne, Jeanne, qui un jour on était dans un bar, au sommet de la favela, puis m'a dit: Ah, Sophie, la méditation, c'est comme la mafia, ça, c'est en train de se répandre partout dans le monde. J'étais comme: Wow, Jeanne, c'est tellement bon. C'est exactement ça qu'il faut.
Conversation là, vraiment qui était anodine, puis ça le met maintenant à votre, je crois que c'est le nom de justement de votre programme, hein, la Mindful Mafia.
Oui, exactement. C'est un programme en ligne de réduction du stress par la pleine conscience. En fait, c'est comme un bootcamp de pleine conscience de 8 semaines en ligne.
C'est la chose qui moi aussi m'intéresse, la méditation, là, puis comment ça peut aider les gens, là, mais commençons donc par le fait que, d'abord et avant tout, hein, vous êtes un médecin de famille, puis d'ailleurs, vous avez pratiqué la médecine qu'on dit conventionnelle dans le Grand Nord pendant 7 ans, mais je crois que maintenant, vous avez une pratique qui est légèrement différente de celle qu'on peut s'imaginer d'une omnipraticienne classique, là, si je ne me trompe pas.
Oui, absolument. J'ai pratiqué dans le Grand Nord pendant 7 ans. Là-bas, je faisais vraiment de tout. En fait, c'était une pratique très intuitive. On faisait tant des urgences majeures que des urgences mineures, du sans rendez-vous, du suivi de patients. Je faisais des visites à domicile. 50% de ma pratique était en lien avec la santé mentale, parce que là-bas, il n'y avait pas de psychologue sur place. Donc, c'était vraiment une pratique très polyvalente. Puis, on avait peu de ressources en santé mentale, fait que ça m'a amené à développer des outils en fait que je pouvais transmettre aux patients. Puis il y avait toujours ce sentiment-là de semble que je pourrais toucher plus de gens en fait. Et en 2012, j'étais en résidence, c'était ma première année de résidence et ben, tu le sais, Hugo, la résidence c'est quand même un grand défi dans la vie d'un médecin. Et avec le niveau de stress vraiment plus élevé, l'anorexie que j'avais en fait a comme empiré. Et à ce moment-là, j'ai découvert la méditation de pleine conscience alors que j'étais vraiment au fond du baril. Et c'est ça qui m'a permis de guérir.
Comme vous le dites dans vos écrits, t'sais, vous aviez tout pour être heureuse en réalité. Là, t'sais, vous étiez résidente en médecine, vous étiez jeune, jolie. Vous êtes encore jolie, là, mais vous avez pas de santé physique, comme vous le dites, apparente. T'sais. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en parler si ouvertement de ces problèmes-là?
J'ai eu envie d'en parler ouvertement parce qu'on n'en parle pas. Puis Je me rappelle, tu sais, on était quand même 9 résidents en Gaspésie quand j'ai fait ma résidence, puis on ne parlait pas de ça. Puis quand j'ai pris un arrêt santé, tout le monde a été comme un peu surpris parce que, tu sais, j'avais l'air d'aller bien, là. Mais je souffrais vraiment beaucoup en dedans. Puis à la fin de la résidence, en fait, à la fin de ma première année de résidence, j'avais décidé de faire un projet, le projet d'érudition. Nous, on avait ça à l'Université Laval. C'était un projet qu'on devait faire. Soit c'était comme une réflexion ou de la recherche. Et je l'avais fait sur le stress chez les résidents en médecine. Et c'était tellement, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que la salle était vraiment pleine. Puis quand j'ai commencé à partager que j'avais vécu l'anorexie puis que j'étais en guérison, là, il y a comme eu un silence complet. Puis à la fin, en fait, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ah, merci Sophie de dire ça. Moi, je me suis sentie tellement seule. Puis je pensais que j'étais toute seule à me sentir comme ça. Puis même des gars, tu sais, des gars qui s'expriment peu souvent sur leur ressenti. Il y a des gars qui sont venus me voir. Ah, merci Sophie. Je suis ardeur. Puis c'était comme, ça fait comme depuis tout le début de ma résidence que je me dis que je suis toute seule à me sentir comme ça. Mais là, tu me montres que non. Donc, je pense qu'on parle pas assez de ça. Puis de se rendre compte qu'on est humain à la base. On est humain. On est tous humains. Puis, il y a un collègue médecin dans le Grand Nord, m'a dit, je l'ai rencontré pour la première fois, puis il m'a dit, Sophie, merci tellement de rendre l'humanité universelle. Puis ça m'avait tellement touchée parce que, tu sais, on est médecin, puis il y a l'image du médecin comme super Dieu, mais on est humain à la base. Puis quand on se montre dans notre vulnérabilité, mais je pense que ça aide aussi les patients, ça aide les gens qu'on accompagne.
Une chose que je retiens beaucoup de ce que vous venez de dire, c'est que, en réalité, autant les jeunes que les adultes, il n'y a personne qui va aller le crier à voix haute là, sur le toit des édifices là, qui ont des problèmes de santé. Puis, justement, on devrait le faire comme vous l'avez fait pour déstigmatiser, pour démystifier cette notion-là que c'est anormal de ne pas toujours être parfait, de ne pas toujours être bien dans sa peau, dans son corps, dans son esprit. Puis qu'en réalité, la majorité des gens vont traîner avec eux une condition ou une autre avec laquelle ils vont devoir composer au quotidien. Puis, tu sais, on est juste conscient, au bout du compte, de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, de notre esprit, puis on se compare aux autres, mais on se compare pas à la réalité, on se compare à ce que les autres veulent projeter. Puis ce qu'on veut projeter, la plupart du temps, c'est la perfection, ben, pas la perfection, mais la normalité, disons. Puis le fait que vous en parlez comme ça, moi, je vous remercie grandement, parce que ça permet à des gens, comme vous l'avez dit, qui étaient en médecine, lors de votre présentation à l'université, de pouvoir se rendre compte que ce qu'ils vivaient, c'était normal. Puis j'imagine que votre parcours dans le Grand Nord puis vos interactions avec les populations du Nord ont certainement dû influencer votre vision là, du corps humain, puis du lien corps-esprit puis de la médecine, parce que c'est vraiment différent, je pense, la vision qu'ils ont de la nôtre. Mais vous avez déjà un intérêt, vous, envers la médecine alternative, parce que je pense que vous avez participé à des formations déjà en Inde dès 2009, là, selon votre biographie. Là.
Oui, mais ça m'a beaucoup intéressée, en fait. Je pense que ça a été vraiment un cadeau de prendre une année sabbatique pendant mes études en médecine parce que ça m'a permis d'explorer d'autres choses. Parce que je me rappelle, quand j'étais en deuxième année de médecine, je me disais, ah, les gens qui ont... Je tripais tellement là, sur la médecine et tout ce que j'apprenais que je me disais, ah, les gens qui n'ont pas la médecine dans leur vie doivent ressentir un vide. Puis tu sais, je croyais vraiment ça, là. Puis finalement, j'ai pris une année sabbatique puis je suis venue au Brésil, entre autres, où est-ce que je voyais les gens danser. Puis il avait l'air d'avoir du fun, puis il avait l'air d'être heureux. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a d'autres façons d'être heureux. Puis de regarder ces personnes-là danser, mais moi, ça me faisait du bien. Et je me suis dit, ah, il y a d'autres façons aussi d'aider. Puis ensuite, je suis allée en Inde, j'ai fait une formation de yoga, j'ai fait des formations de Reiki. Je me suis vraiment ouverte à plein de choses. Puis j'ai vu aussi en médecine, tu sais, c'est drôle parce que je donnais un coaching ce midi, puis c'était exactement sur ce thème-là, la relation entre le corps, l'esprit. Puis, quand j'étais en résidence, j'avais une patronne qui me disait, Sophie, on a une obligation de moyens. Donc, toutes les personnes qui venaient puis qui avaient des maux physiques, bien, on leur faisait passer plein d'examens, des scans, des IRM, des échos. Puis, après comme 2 ans, je me rendais compte, voyons, c'est comme si, on n'a pas découvert grand-chose. On fait faire plein d'examens, mais on découvre rien d'organique là-dedans. Fait que là, ça a commencé à vraiment me travailler. Puis j'ai commencé à poser. En fait, après mon arrêt santé, j'ai vu un ostéopathe. Puis À ce moment-là, j'avais une grosse douleur dans ma colonne vertébrale. Mais j'étais sûre que je faisais de l'arthrite, là. J'étais vraiment au fond du baril avec l'anorexie. C'était vraiment comme le pire du pire. Puis j'étais clouée au lit à tous les matins pendant 2 heures. Je pleurais de douleur. Puis quand je suis allée voir l'ostéopathe, j'ai parlé de la douleur pendant comme 1 heure. Puis à la fin, j'ai dit, ah, ben, by the way, je suis en arrêt santé depuis 3 jours parce que j'ai un trouble alimentaire. Là, il était comme, mais voyons, Sophie, il fallait que tu me le dises, c'est tellement important. Tu sais, le lien, te faire vomir, c'est violent, ça va dans ton... Tu sais, ça s'intègre dans les cellules de ton corps. Puis j'étais comme, ah, j'ai jamais pensé ça. Puis là, il m'a dit une phrase qui, pour moi, a tout changé. Il m'a dit, mais Sophie, la guérison, ça commence par s'aimer. Puis quand il m'a dit ça, je sais pas qu'est-ce que ça l'a déclenché en moi, mais c'était comme une épiphanie un peu, comme une grande prise de conscience. Puis, je suis sortie de son bureau, puis 80% de la douleur était partie, puis elle n'est pas revenue. Mais je connais pas un médicament qui a cet effet-là.
Sans effet secondaire, en plus, là, donc c'est très vrai. Puis moi aussi, je le note là, dans ma pratique en psychiatrie. Hein, surtout, hein, on a plein de médicaments qui, on sait un peu comment ils fonctionnent, on sait un peu sur quels neurotransmetteurs ils vont agir, mais au bout du compte, on n'a pas une grande efficacité avec ces médicaments-là. On a beaucoup d'effets secondaires, puis évidemment, lorsqu'il le faut, tu sais, il le faut parce que des gens, comme vous le dites, qui sont dans le fond du baril puis ont besoin de quelque chose. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises que cette chose-là, ça a été comme vous, une phrase que j'ai dit à un patient, puis que le patient me redit 6 mois plus tard, hey, la fois où ce que vous m'avez dit telle chose, ça a vraiment changé ma vision. Puis justement, ben des fois c'est une phrase, mais des fois aussi ça peut être une pratique. Ça peut être une pratique de la méditation, par exemple, parce que selon de plus en plus d'études, la littérature commence vraiment à s'empiler là, sur les effets de la méditation sur différentes conditions, entre autres les conditions psychiatriques comme la dépression, l'anxiété, ça c'est sûr à 100%, l'insomnie, les douleurs chroniques même. Puis clairement, vous dites, vous, la première chose à faire lorsqu'on est instable, c'est d'aller voir un professionnel de la santé. Ceci étant dit, dans votre expérience, vous devez avoir noté que de nombreuses personnes qui vont pouvoir vraiment diminuer, voire complètement guérir des troubles psychiatriques à l'aide de la méditation pleine conscience.
Oui, absolument. Ben, en fait, moi, ça fait 3 ans maintenant que j'accompagne les gens, entre autres dans la Mindful Mafia, qui est un programme en ligne de pleine conscience. Et c'est assez... Moi, je suis impressionnée toujours parce que, tu sais, j'ai pratiqué la médecine conventionnelle. C'est vraiment rare. Je peux compter personnellement dans ma pratique sur les doigts de ma main les fois où j'ai commencé un antidépresseur pour une dépression ou pour un trouble anxieux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant. Puis, tu sais, c'est des médicaments qui prennent quand même un temps à faire effet. Fait qu'il n'y a jamais vraiment d'urgence. Il faut, là, c'est la première rencontre, je te donne un antidépresseur maintenant. Puis ça, c'est quelque chose que je trouvais triste aussi dans ma pratique, de voir des fois quand je revenais dans le Grand Nord, puis il y avait des médecins dépanneurs qui venaient, puis ils voyaient le patient une fois, puis lui prescrivaient un antidépresseur. Puis là, je revoyais la personne, puis OK, l'as-tu pris? Ben non, je sais pas pourquoi il fallait que je le prenne. Puis là, en plus, c'est, ah oh, ben tu sais, j'ai perdu ma job, mon chum m'a laissé, puis je suis sans abri. Ben, t'as comme plusieurs raisons pourquoi tu vas pas bien, là, tu sais. Est-ce que la pilule va être la solution? Je suis pas sûre. Puis en fait, la pleine conscience, ben c'est sûr que le programme, c'est un entraînement assez intensif de pleine conscience de 8 semaines. Puis j'ai vu des personnes qui avaient comme 10 attaques de panique par jour, qui avaient essayé plusieurs choses avant, puis qu'il n'y avait rien qui avait fonctionné. Puis après 8 semaines du programme, passer de 10 attaques de panique par jour à 0, puis maintenir les acquis à 2 ans. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, quelqu'un fait une action pendant 8 semaines, fait une formation, puis après 2 ans, elle a encore les effets, en fait.
C'est pas seulement une intervention qui est ponctuelle, mais vous donnez un outil qui, ensuite de ça, peut servir tout au cours de la vie. Puis là, vous venez de parler d'attaque de panique, mais comme j'ai dit tantôt, il y a plein de conditions pour lesquelles c'est prouvé que ça peut aider. Mais non seulement ça, mais ça l'aide juste avec nos émotions du quotidien et puis avec notre attention au quotidien aussi. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu plus de la Mindful Mafia puis de votre programme de 8 semaines.
C'est un programme, en fait, que j'ai créé, le programme auquel j'aurais aimé avoir accès quand j'étais malade, puis que j'ai cherché, en fait, parce que j'avais On m'avait recommandé la pleine conscience, mais je savais pas trop par où commencer. Fait que j'ai cherché, puis j'étais en Gaspésie, fait qu'il y avait rien vraiment qui se donnait là-bas. Fait que j'ai cherché un programme en ligne de réduction du stress par la pleine conscience. Puis à ce moment-là, j'ai rien trouvé en français. Donc c'est comme si ça l'a semé une petite graine. Puis ça m'a dit ah ben il faut faire quelque chose. Puis ça m'a pris quand même du temps là. Tu sais, je suis allée dans le Grand Nord pendant plusieurs années. Puis parallèlement, j'ai commencé à travailler sur ça, en fait, sur ma mission qui est de partager la pleine conscience. Mais c'est un programme de 8 semaines pour les personnes qui veulent vraiment faire une démarche intérieure, puis vraiment développer leurs outils intérieurs pour gérer le stress, l'anxiété naturellement, pour accueillir les émotions, pour comprendre aussi comment est-ce qu'on fonctionne, le lien entre nos pensées, et nos émotions. C'est vraiment un programme où est-ce qu'on apprend à s'arrêter par la méditation, puis à intégrer la méditation au quotidien. Parce qu'on a beau lire tous les livres de méditation du monde, si on ne pratique pas, ça ne changera rien, en fait.
Mais pour la plupart des gens, le lien entre la méditation et l'anxiété est probablement facile à faire, mais par contre, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont se questionner comment la méditation peut être bénéfique pour un trouble alimentaire. T'sais, vous parlez de la relation avec le corps, puis la relation avec la nourriture. Est-ce que c'est ça que la pleine conscience va surtout permettre d'améliorer? Comment vous expliqueriez les bienfaits que la méditation peut avoir sur les troubles alimentaires?
Bien, il y a plein de mécanismes. C'est toutes des hypothèses, mais aussi des choses vécues, puis des choses que j'observe, là. Mais en fait, quand on pratique, par exemple, la pleine conscience, il y a une pratique qui s'appelle le scan corporel. Donc, il y a une pratique où est-ce qu'on va visiter consciemment chaque partie de notre corps, puis juste observer les sensations qui sont là. Donc, ça nous permet de se déposer à l'intérieur de notre corps. Et quand on a un trouble alimentaire, mais souvent, on va voir notre corps de l'extérieur, soit dans le miroir, où est-ce qu'on va scruter tout ce qu'on n'aime pas, ou encore dans le regard des autres. Alors que quand on pratique le scan corporel, mais là, on se dépose à l'intérieur de notre corps, puis on vient observer notre corps de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, puis d'une manière qui est sans jugement, donc d'une manière qui est ouverte. Donc, une fois, ma psychologue, quand j'avais un trouble alimentaire, m'avait dit, Sophie, parce que je scrutais le gras de mon ventre, puis tu sais, je mesurais le gras de mon ventre avec mes mains, puis là, elle m'a dit, mais Sophie, quand on scrute, on trouve. C'est vrai, quand on scrute, on trouve. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que ça nous aide à faire? Ça nous aide à arrêter de scruter, à se positionner comme un observateur bienveillant. Puis là, on observe notre corps dans son entier, mais aussi de l'intérieur. Donc, ça permet vraiment de développer une relation plus amicale, puis même d'amour avec notre corps, où est-ce qu'on va le traiter avec bienveillance. Donc, ça, c'est une des façons. Mais il y a plein d'autres façons. Entre autres, en prenant conscience de nos pensées. Donc, prendre conscience de nos pensées. Quand on a des obsessions envers la nourriture, envers notre corps, ben juste le fait de prendre conscience que, OK, les pensées ne sont pas des faits.
Hein, c'est le lien de thérapie cognitivo-comportementale là, entre les pensées, les émotions et les comportements. Donc, le fait de prendre conscience que, des fois, hein, on peut ruminer pendant des heures et des heures, voire même des jours sans s'en rendre compte, ben, la méditation elle peut nous permettre de peut-être mettre un frein à ça ou au moins s'en rendre compte puis le laisser aller ensuite.
Oui, absolument. Puis aussi, il y a un lien aussi entre le stress et les symptômes des troubles alimentaires. Donc, si on est très stressé, ben les symptômes du trouble alimentaire vont augmenter. Alors, la méditation, en diminuant le stress, puis on voit que les méditants, en fait, il y a une recherche qui a démontré ça, que les méditants versus les non-méditants, les méditants ont une activité sympathique diminuée et une activité parasympathique augmentée par rapport aux gens qui ne méditent pas. Puis ça, même des gens qui viennent juste de commencer à méditer vont avoir un effet. Donc, c'est assez, ça peut être assez rapide aussi l'impact, un peu comme je parlais de Linda qui, après 2 semaines, « Ah, mon cerveau marche plus pareil! » Donc, moi, ça a été ça, en fait, personnellement, mon expérience avec la pleine conscience, c'est que j'ai commencé à méditer. Puis, ça a été vraiment comme pratiquement instantanément, les compulsions alimentaires ont arrêté. Les obsessions ont continué, ça a pris un peu plus de temps. Puis la dernière chose qui est partie, c'était la comparaison. La comparaison avec les autres filles, je marchais dans la rue, c'était comme je scrutais de haut en bas. Fait que ça, c'est la dernière chose qui est partie. Ça a pris 8 mois en tout, comme mon processus de guérison complet, là, je dirais. Ça agit à plein niveau, en fait, la pleine conscience.
Une question très importante que je veux vous poser, parce que moi aussi, j'ai un petit peu une approche un peu holistique qui est différente de la médecine habituelle. Je me demandais comment est-ce que vos collègues dans les universités puis dans les hôpitaux voient votre pratique actuelle, puis comment sont vos interactions avec eux, avec ceux que vous connaissez ou avec les autres médecins que vous ne connaissez pas personnellement?
Mais je sens beaucoup d'ouverture, de curiosité aussi. Puis de plus en plus, ça m'arrive que des gens font mes programmes puis ils me disent « Ah, c'est mon médecin qui m'a dit d'aller voir ta page. » Puis j'ai aussi des collègues qui étaient dans ma classe avant qui là commencent à me contacter. « Ah, je vois qu'est-ce que tu fais. Ah, j'ai une patiente qui fait ton programme puis ça l'a vraiment aidé. » Fait que tu sais, ça, ils commencent à en avoir de plus en plus. Aussi, ben c'est sûr que j'ai comme tout le temps été un peu marginale là, en médecine, donc mais je pense maintenant qu'il y a une ouverture. Puis aussi, les médecins se sentent quand même impuissants à beaucoup de niveaux pour traiter les problématiques de santé mentale. Donc, je pense que la pleine conscience est une avenue vraiment intéressante. Puis les gens commencent à... On en entend de plus en plus parler dans les congrès en médecine, ça parle de pleine conscience. Donc, c'est plus quelque chose qui a l'air ésotérique. Tu sais, quand je me rappelle en 2012, quand j'ai commencé à vouloir partager la pleine conscience, c'était comme « Ok, Sophie, mais c'est-tu ésotérique? Fais-nous une présentation scientifique là-dessus. » Il avait fallu que je convainque mon directeur de programme de pouvoir faire un petit programme pilote avec des patients. Mais ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Puis c'est vraiment ça qui a confirmé que non, c'est ça ma mission. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture. On en entend de plus en plus parler. Les universités aussi, ils m'ont invité beaucoup, ben, beaucoup les étudiants. Je pense que les étudiants ont beaucoup d'ouverture, de curiosité. Fait que j'ai fait des conférences dans toutes les universités de médecine sauf McGill. Ben, c'est super le fun. Moi, j'adore ça, pouvoir échanger avec d'autres médecins, en fait, puis voir différentes façons aussi d'approcher les problématiques de santé mentale, mais aussi des façons, en fait, que les humains peuvent devenir souverains, en fait, face à leur santé mentale.
Puis, tu sais, vous avez dit qu'il y a une ouverture de la médecine, mais je pense aussi qu'on voit tranquillement un shift dans la façon dont les hommes voient leur santé, leur corps, leur esprit, là, tu sais. Le côté un peu plus féminin d'empathie puis de compassion, que des fois les femmes peuvent pas avoir envers eux-mêmes, là, mais qui ont envers les autres, là, mais qui peut également être dirigé vers soi-même, semble être de plus en plus accepté par les hommes. Puis, j'imagine que vous remarquez aussi, vous, cette transformation-là, là, chez les hommes. Une autre chose que vous venez de dire, c'est le fait que la médecine ou les médecins, on est parfois impuissants. Puis c'est le genre d'intervention qui est pas noble en médecine. Des interventions par rapport aux habitudes de vie, puis aux quatre grands piliers là, qui sont l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, puis la relaxation. C'est des choses que si on était capable de faire de la prévention primaire auprès de la population, probablement qu'on sauverait des centaines de millions de dollars, voire même plus là, au long terme, sur l'évolution du cerveau, sur l'évolution du corps. D'ailleurs, tu sais, je me demandais, est-ce que vous avez déjà réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait justement améliorer dans la formation des médecins? Tu sais, vous dites, ben, quand je suis arrivé dans le Grand Nord, j'avais plus que 50% de mes interventions qui étaient en psychiatrie, là, tu sais. Donc, alors que moins que 5% de notre formation est sur la psychiatrie, puis sur toutes sortes de maladies qu'on verra jamais de notre carrière. Puis oui, il faut être capable de reconnaître, là, mais j'avais entendu une pédiatre de Montréal justement parler à LCN, puis elle disait « C'est dommage hein, que 5% de ma formation soit en santé mentale, mais que lorsque j'arrive en pédiatrie, 90% de ma clientèle vient me voir pour des problèmes de santé mentale. » Donc, je sais pas si vous avez des réflexions par rapport à la formation des médecins ou au système de santé.
Oui, ben j'en ai plusieurs. en fait, c'est un système basé sur la maladie. Puis même en médecine, quand on apprend, moi je me souviens, en résidence, c'est qui le résident qui a le cas le plus intéressant? Je sais pas si vous aviez cette dynamique-là, mais c'était comme, ah, oh, j'ai eu un cas tellement intéressant. Puis moi, j'entendais ça, puis c'était comme, il y avait quelque chose en dedans de moi qui... C'est comme, OK, mais pourquoi est-ce qu'on est content d'avoir un cas intéressant quand un cas intéressant, c'est une personne malade? Mais c'est parce que le système d'entraînement médical est basé sur la maladie et non la santé. Donc, de transformer, en fait, de passer d'un système de maladie à un système de santé, un système basé sur la santé, je pense que c'est une des premières choses qui, éventuellement, on va devoir faire. Puis, il y a aussi la notion du one-on-one. Éventuellement, bien, on le voit, les listes d'attente sont toujours plus longues, les gens n'arrivent pas à avoir un médecin de famille, mais il y a une notion un peu encore que les gens vont chez leur médecin qui a le savoir, la connaissance. Donc, de passer d'un système où est-ce que l'expert n'est plus le médecin, mais devient la personne qui devient experte elle-même de sa santé, je pense qu'éventuellement, on n'aura pas le choix d'aller vers un système comme ça parce que le système actuel est juste en train, tu sais, il répond pas, en fait, à la demande trop grande. Puis aussi, c'est pour ça que, tu sais, quand j'étais dans le Grand Nord, puis que je voyais, je sais pas, tu sais, dans le Grand Nord, on a un débit plus lent quand même, mais je voyais des patients quand même plus longtemps. J'avais la chance de pouvoir voir des patients pendant 30 minutes, 45 minutes, quand c'est des problèmes de santé mentale, par exemple. Puis, je me disais, je vois 50 patients dans ma semaine. Puis là, j'ai vu Shanti. Je sais pas si tu connais Shanti. C'est un coach fitness. Puis, il a posté une photo de salade. Puis, elle avait 25 000 likes. Puis là, j'étais comme, OK, lui, c'est un coach fitness. Il poste une photo de salade. Il a 25 000 likes. Puis moi, je suis médecin. Puis je touche 50 personnes par semaine. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée aussi d'avoir une pratique plus de groupe où est-ce qu'on peut servir plus de personnes.
Donc, augmenter la littératie de la population. 100% d'accord avec vous, c'est des très belles façons de voir les choses. Puis le mot important que je retiens, c'est qu'on n'a pas un système de maladie, mais on devrait avoir un système de santé. Docteur Maffolini, c'est déjà la fin de l'émission. Si les gens veulent accéder à votre site Internet, acheter vos livres, vous-même vous rejoindre, comment est-ce qu'ils font?
SophieMaffolini.com.
Aussi simple que ça?
Oui.
Ben, merci beaucoup de votre temps, puis j'espère que votre participation à notre émission va permettre de rejoindre de nouvelles personnes qui pourraient bénéficier de votre enseignement. La relaxation, la méditation, a fait partie des quatre grands piliers de la santé que j'ai nommé tout à l'heure, là. Mais quand je parle de santé, je parle de bien-être physique et mental, qui sont pas mal plus connectés que ce qui est véhiculé, y compris dans la médecine actuelle. Je vous encourage tous grandement à débuter une pratique de méditation, là, et ça, même si c'est juste 2 minutes par jour, là. On nous enseigne tous à se brosser les dents 2-3 fois par jour lorsqu'on est jeune, puis ça fait partie des habitudes de vie acquises pour lesquelles on se pose vraiment jamais de questions. Par contre, on n'enseigne jamais à mieux gérer notre attention puis nos émotions. Vous savez, vous pouvez tenter de changer la façon dont les gens agissent autour de vous. Vous pouvez essayer de jamais tomber malade ou jamais être blessé. Vous pouvez essayer de jamais briser ou perdre vos possessions, etc. Vous pouvez essayer autant bien que mal, mais il y aura toujours des sources de stress, de déception, de tristesse et de malchance. Donc, si vous désirez, vous pouvez essayer de changer le monde autour de vous pour qu'il soit adapté à vos attentes puis qu'il vous blesse jamais. Mais contrôler toutes les sources de malheur environnantes, c'est impossible. Heureusement, il y a d'autres approches telles que la méditation pour mieux réagir lorsqu'on fait face à ce genre d'adversité. Alors voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Psychoserie à 11h30 sur les ondes de Chiz 94.3. Bonne journée.